Merci Léa de vraiment beaucoup de m'avoir invitée à votre séminaire. C'est un grand honneur de parler devant vous, mesdames et messieurs, et de pouvoir vous présenter mon travail. Alors j'ai deux petites choses à préciser. Je pense que vous avez tous l'habitude des PowerPoint de Bénédicte Savoie, y compris du tien, ma thèse. Mon expertise en PowerPoint n'est pas aussi avancée. Donc vous allez voir, mon PowerPoint n'est pas super. Même si le français est ma langue maternelle, l'allemand l'est aussi. Donc si durant ma prise de parole, il s'avérait que j'utilise quelques formulations, disons, un peu inhabituelles, je vous prie dès à présent de m'en excuser, c'est que la langue allemande et la langue française aiment parfois s'entremêler dans mon cerveau. Si je me suis intéressée plus particulièrement à Gustav Rochlitz, c'est que durant mes recherches et travaux précédents, j'ai à plusieurs reprises trébuché sur son nom. Lorsque l'on travaille sur les spoliations durant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement celles qui ont eu lieu en France, le nom de Gustav Rochlitz apparaît partout. J'ai aussi écrit quelque chose, mais vraiment n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions déjà en cours de route. Gustav Rochlitz, né le 2 avril 1889 à Bromberg, qui est aujourd'hui la ville de Bydgoszcz en Pologne, dans la province de Ponanie. Il quitte sa ville natale à l'âge de 19 ans pour rejoindre Berlin pour s'inscrire au cours de peinture, formation qu'il poursuit pendant 3 ans avant de s'établir en tant que peintre. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il n'est tout d'abord pas appelé au front, mais sera employé en tant qu'illustrateur civil au journal de l'armée. Il sera plus tard envoyé en Belgique en tant qu'illustrateur et il y restera environ 1 an. Il sera à Bruxelles. Selon le rapport d'investigation de l'armée américaine, Rochlitz rencontre Wilhelm Bode peu après la fin de la guerre, célèbre directeur des musées berlinois et fondateur du musée qui porte entre-temps son nom sur l'île au musée, le Bode Museum. Celui-ci, donc Wilhelm Bode, l'aurait encouragé à s'investir dans le marché de l'art. Selon ses dires, il aurait commencé à modestement vendre des œuvres d'art à partir de 1921, ainsi qu'à beaucoup voyager en Europe, principalement en Italie et aux Pays-Bas. À partir de 1925, Rochlitz passe la majeure partie de son temps en dehors de l'Allemagne, bien qu'il ait ouvert une petite galerie à son nom depuis 1924 dans la Friedrich-Ebert-Straße numéro 1 à Berlin. C'est néanmoins en 1925 que débute réellement sa carrière de marchand d'art avec son association à la galerie Weder à Lucerne, en Suisse. Peu après, il devient partenaire du docteur Story à Zurich et s'associe à la galerie Van Diemen à Berlin. Rochlitz, malgré ses autres activités dans les galeries nommées, dira avoir maintenu la sienne à Berlin jusqu'en 1930. Lorsque le docteur Story fait faillite en 1931, Rochlitz prétend avoir perdu 200 000 francs suisses, ce qui ne l'empêchera pas d'ouvrir, quelques mois plus tard, la galerie Muralto à Zurich. Cette galerie sera néanmoins au nom du banquier suisse Goule. Cependant, Rochlitz ne pourra mener longtemps à bien cette entreprise, car dès 1932, les autorités suisses lui interdiront le droit de diriger une entreprise en Suisse à cause de sa nationalité allemande. Toujours selon les dires de Rochlitz, ce serait le galeriste Theodor Fischer, installé à Lucerne, qui aurait contacté les autorités suisses et qui aurait insisté pour se débarrasser de lui, Rochlitz lui faisant trop de concurrence. Theodor Fischer, pour ne m'attarder que 2 minutes sur lui, était le marchand d'art suisse qui a procédé, quelques années plus tard, en juin 1939, à la vente aux enchères des tableaux considérés comme dégénérés par les autorités nazies et confisqués dans les collections publiques allemandes. Environ 20 000 œuvres d'art ont été saisies dès 1937, y compris dans la Kunsthalle de Kiel, provoquant une vraie saignée des collections qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas complètement refermée. 125 tableaux ont été choisis en fonction de leurs qualités exceptionnelles pour être vendus à l'étranger. Cette vente, qui attirera nombre de directeurs de musées d'outre-Atlantique et européen, et qui fut très controversé, a eu un résultat de vente mitigé. Il y a quelques années, par exemple, le musée de Liège faisait une exposition sur ses achats. Ils avaient acheté 9 tableaux lors de cette vente aux enchères, où eux-mêmes disaient dans l'exposition qu'ils n'auraient jamais pu acheter ces œuvres autrement que sur cette enchère, puisque pour les tableaux qu'ils avaient acquis, en tout cas, les prix n'avaient pas trop monté. Mais il y avait également d'autres directeurs, comme par exemple celui du MoMA, et certains tableaux qui étaient auparavant dans les musées allemands se retrouvent aujourd'hui outre-Atlantique. Nombre de tableaux n'ont pas trouvé acquéreur, alors que pour d'autres, le prix s'est envolé. Donc c'est bien de cette vente-là que Theodor Fischer a été mandaté, et c'est ce même Theodor Fischer qui a voulu se débarrasser de Gustav Rochlitz. Nous retrouvons la trace de Rochlitz à Paris dès 1933. Il s'installe dans la cité Bergère, proche de la rue Drouot, accompagné de sa nouvelle et seconde épouse. Curieusement, c'est sous le nom de son comptable, Paul Weil, que Rochlitz ouvre sa première galerie à Paris. Ce n'est qu'en 1936 qu'il déménagera ses locaux au 222 rue de Rivoli, adresse fréquemment mentionnée dans les archives, comme vous pouvez le voir ici. Je vous montre deux quittances qui sont la même, une fois en allemand et une fois en français, mais bon, avec la même adresse évidemment. Selon le rapport, Rochlitz prétend avoir perdu la trace de son comptable Paul Weil après 1940. Il aurait complètement disparu. Paul Weil était juif. Suite à la naissance de sa fille, Gustav Rochlitz et son épouse feront les démarches pour obtenir la nationalité française. Nationalité française qu'ils auraient acquise dans les 6 mois, selon leur dire, si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas éclaté. Ce sera néanmoins grâce à la nationalité française de sa fille qu'il sera relâché assez rapidement du camp de Colombes, avant d'être de nouveau interné par les autorités françaises à Bassens. Il sera finalement relâché par la Auslandsorganisation de la NSDAP en juin 1940. Rochlitz ne quittera Paris que tardivement, en août 1944. J'en viens maintenant à ses ventes. Rochlitz, même s'il a tenté après la Seconde Guerre mondiale, comme bon nombre de ses congénères, de minimiser le nombre de ses ventes et son importance durant l'occupation, fait partie des marchands d'art qui ont le plus profité du système. Tout autant arrivait-il à en vivre tant bien que mal avant la guerre, d'autant plus il en profitera avec l'arrivée du pouvoir d'achat de la nouvelle élite nazie. Mathès en a glissé un mot tout à l'heure. C'est vrai que l'arrivée des Allemands a été une vraie aubaine pour le marché de l'art français et surtout l'arrivée des liquidités. Ses contacts avec les institutions allemandes lui serviront de porte d'entrée pour servir les hauts dignitaires nazis, avant tout Hermann Göring. Ses toutes premières ventes après l'occupation se feront justement à travers un de ses contacts, Adolf Wüster, agissant alors en intermédiaire pour le musée de Düsseldorf et de son directeur, le Dr. Hoop. Il lui aura vendu dès décembre 1940, 2 petits tableaux de peintres hollandais, un paysage avec chevaux de Lingelbach et un paysage de Wouvermann, ainsi qu'en 1941, un portrait d'homme de Longhi, puis en 1943, une scène mythologique de Hendrik de Klerk et une scène d'intérieur de Peter Kredik. Cela fait donc 5 tableaux, rien que pour le musée de Düsseldorf. Et cela ira crescendo. 6 tableaux vendus à Hildebrand Gurlitt, dont le nom vous évoque peut-être quelque chose. 8 tableaux à Maria Almaz Dietrich, une marchande d'art munichoise. C'est elle qui a le plus vendu de tableaux à Hitler, selon les estimations, plus de 200. 6 tableaux à Bruno Lose, historien et marchand d'art, et bras droit de Hermann Göring sur le marché de l'art parisien. Ces tableaux seront directement destinés à Hermann Göring. Le contact de Rochlitz et Lose s'était établi déjà bien des années auparavant à travers le père de Bruno Lose. Lose, toujours à la recherche de tableaux pour Göring, s'enquiert auprès de Rochlitz avant l'une des visites de celui-ci à Paris. Les 6 tableaux mentionnés plus haut seront effectivement achetés par Göring, ce qui vaudra à Rochlitz l'obtention d'un laissez-passer pour la zone libre. Ce laissez-passer était très recherché. Garantissait-il une concurrence moins accrue dans la recherche, l'obtention et la vente des œuvres d'art, et in fine, d'enrichissement. Beaucoup de familles juives tentèrent de cacher leurs collections d'art dans la zone libre, et c'est spécifiquement pour la recherche de ces collections-là que certains marchands d'art mettent tout en œuvre. Mais ceci est un autre aspect, et il y a sûrement dans la salle des experts bien plus qualifiés que moi pour en parler. Rochlitz ne sera pas toujours aussi chanceux auprès de Göring. Deux autres tableaux, un portrait d'homme de Titien, ainsi qu'une nature morte de Jan Vinix, n'obtiendront pas gain de cause auprès du Reichsmarschall pour cause de prix trop élevé. Göring propose, en guise d'achat, d'acquérir ces deux tableaux à travers un échange avec des tableaux de maîtres français du XIXe et XXe siècle. 11 tableaux de peintres français contre 2 tableaux qui correspondent au goût autorisé par les nazis. C'est à ce moment de mon intervention qu'il faut que je m'arrête quelque peu sur un organisme nazi qui a systématiquement pillé et dérobé et même tué dans les pays de l'Est. L'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ce qui en français signifie peu ou prou équipe d'intervention du Reichsleiter Rosenberg. Un nom qu'il est tout aussi difficile à prononcer en allemand, tellement il est long et compliqué. Permettez-moi donc de l'appeler par son acronyme ERR. L'ERR se dénomme ainsi à cause du nom de celui qui l'a initié et dirigé, l'idéologue nazi Alfred Rosenberg, un nazi de la toute première heure, convaincu de ses propos. L'ERR est une section du Bureau de politique étrangère de la NSDAP. Dans les territoires occupés par la Wehrmacht, l'ERR était l'organe qui procédait aux confiscations des Juifs et des francs-maçons. Le siège de l'ERR à Paris sera d'abord l'hôtel Commodore au 12 boulevard Haussmann, puis au 54 avenue d'Iéna. L'ERR sera établi à Paris en juin 1940, dans la foulée de l'invasion de la Wehrmacht, pour être aux toutes premières loges, avant que le siège principal ne soit rapatrié à Berlin, pour être plus proche des pays de l'Est, autre pays cible des rafles et d'autant plus durement touché. L'ERR travaillera avec une efficacité redoutable, ayant établi déjà auparavant, avant même l'arrivée à Paris, des listes détaillées des plus prestigieuses collections françaises. Dès les premiers jours de l'occupation, Alfred Rosenberg et son équipe seront prêts pour vider systématiquement les appartements parisiens des Juifs, les bibliothèques des francs-maçons, faisant emballer soigneusement mais rapidement tous les livres dans des cartons pour les envoyer principalement à Francfort, dans la bibliothèque de la Hohe Schule ou à Berlin. On a du mal aujourd'hui à s'imaginer avec quelle rapidité ça s'est fait. Ça s'est vraiment fait dans les 2-3 semaines qui ont suivi l'invasion, ce qui, pour une période aussi chamboulée, aujourd'hui paraît vraiment étonnant, surtout avec la minutie qu'ils y ont mis. La liste minutieuse et froide de chaque objet est pénible à lire et témoigne de la frénésie nazie. Les œuvres d'art, quant à elles, étaient d'abord stockées dans la scie malheureusement bien nommée salle des martyrs du jeu de paume. Le jeu de paume servit non seulement comme lieu de stockage, mais également comme lieu d'exposition. Hermann Göring fit le trajet 21 fois entre Berlin et Paris, uniquement pour venir y faire ses emplettes. Bruno Lose organisera pas moins de 7 expositions au jeu de paume des œuvres d'art confisquées. Hermann Göring, qui se qualifiait lui-même de fou de l'art, se réservant les meilleures pièces. C'est notamment lors de ces expositions que les marchands d'art se bousculaient, sachant qu'ils pourraient revendre les œuvres ou les échanger assez facilement. Les transactions de Gustav Rochlitz avec l'ERR et Bruno Lose furent nombreuses. On dénombre pas moins de 82 tableaux qu'il reçut de l'ERR entre le 3 mars 1941 et le 27 novembre 1942. Lorsque l'on se penche sur ces listes, c'est tout le gratin des marchands d'art parisiens qui se dévoile. Il vendra ou échangera nombre d'œuvres à Paul Petrides, Mademoiselle Lévy, Isidore Rosner, Klein ou Hans Wendland. Le dernier nommé était notamment le marchand d'art allemand par lequel transiteront beaucoup d'œuvres d'art en direction de la Suisse, entre autres pour le collectionneur et marchand d'armes Émile Georg Böhl. Il aura vendu 11 tableaux à Isidore Rosner, 7 à Petrides, 5 à Klein, 2 à Mademoiselle Lévy, 6 à Wendland. La liste des œuvres d'art se lit comme le bottin des peintres les plus en vue de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Matisse, Braque, Sisley, Picasso, Gauguin, Renoir, Boudin, Corot, Degas, De Chiricot, Utrillo. Rochlitz prétendra que des 82 tableaux reçus, il en vendit 31 et en garda 32. Les 19 autres peintures manquent à l'appel. Rochlitz réussira à faire sortir ses œuvres d'art de France avant la fin de la guerre et à les entreposer en Allemagne, soit directement dans la maison louée à Hohenschwangau près de Füssen en Bavière, soit chez des amis, soit, grâce à ses contacts, dans les entrepôts réservés aux musées, tels que le château Adolfsburg en Westphalie. Le musée de Düsseldorf put y entreposer ses collections, et par ce biais aussi Gustav Rochlitz. Gustav Rochlitz tentera d'expliquer la perte des 19 tableaux manquants de manière assez détaillée dans le Interrogation Report établi par les forces armées américaines, prétendant soit que ce soit le transporteur de la compagnie mandatée qui a été arrêté et accusé de trafic illicite et qui se serait servi, soit directement les forces américaines qui auraient forcé un conteneur rempli d'affaires personnelles à Buching, près de chez lui à Hohenschwangau, fin avril 1945. Les forces américaines lui auraient volé 4 tableaux. La fin du dit rapport n'est pas tendre avec Gustav Rochlitz, et ce à juste titre. Il est considéré être entré au service des autorités nazies non seulement de plein gré, mais également avec empressement et avidité. Comme tu le disais, ceux qui ont vendu directement aux dirigeants ont été sanctionnés, contrairement aux marchands d'art qui ont vendu à des personnes privées qui ont moins été poursuivies. Le rapport cite 3 raisons que je vous cite. Gustav Rochlitz est entré au service de l'ERR pour 3 raisons principalement. Premièrement, pour faire des profits spectaculaires. Deuxièmement, pour se faire un nom dans les circuits artistiques allemands. Troisièmement, pour éviter le service militaire. Tout échange qui a été fait avec lui s'est terminé en une énorme plus-value pour lui, selon les standards du marché de l'art international. Dans plusieurs cas, il a reçu 10 tableaux en échange d'un seul, et donc bien souvent un seul de ces tableaux donnés en échange valait plus que celui pour lequel il avait été échangé. Tous ces tableaux et avoirs obtenus par l'intermédiaire de l'ERR seront confisqués en France, en Suisse et en Allemagne. Il fait partie des marchands d'art les plus durement sanctionnés après la guerre, même s'il put sans trop de complications continuer d'exercer son métier jusqu'à sa mort en 1972. D'autres marchands d'art, tels que Hans Wendland, mentionné plus haut, seront quant à eux blanchis. Je vous montre juste pour vous montrer à quel point vraiment minutieusement tout était écrit, même les pourboires étaient notifiés dans ces listes. Là, une photographie très connue, malheureusement, j'en ai pas trouvé d'autres, justement au jeu de paume. Hermann Göring, que vous voyez assis, contemplant le tableau Marguerite et la danseuse au tambourin de Henri Matisse. Et celui qui tient les tableaux, qui a le visage un peu trop éclairé, c'est justement Bruno Lohse, qui était donc le bras droit de Hermann Göring à Paris. Maintenant, si vous me l'autorisez, et surtout que votre attention me le permette encore, j'aimerais vous parler rapidement, certes, de mon actuel poste à la Kunsthalle de Kiel. Pour ceux d'entre vous pour qui l'Allemagne du Nord vous paraît déjà être le pôle Nord, je vais vous faire peur. Kiel se situe tout au nord, en Schleswig-Holstein, non loin de la frontière avec le Danemark, et en est la capitale du Land. Le land de Schleswig-Holstein a une importance singulière pour l'époque nazie. Ce bout de pays ayant été longtemps danois, du moins convoité par le Danemark, l'artiste Emil Nolde, figure de proue, si je puis dire, de ce land, se considéra lui-même tout autant danois qu'allemand, au moins au début de sa carrière. Donc le Schleswig-Holstein n'est rattaché que tardivement à l'Allemagne et bénéficie non seulement d'une météo plus clémente que la région de la mer du Nord et Hambourg, et est donc propice à l'accueil de la base navale allemande, mais a surtout bénéficié d'une attention particulière de la part des autorités nazies. Il fallait à tout prix consolider le sentiment d'appartenance à la race aryenne et allemande de la population locale, d'autant plus que le Schleswig-Holstein était, et l'est toujours, la région à grain d'une Allemagne manquant cruellement d'espace vital, selon l'idéologie nazie. Ainsi, ce fut la faculté de droit de Kiel qui fut nommée, dès les premiers jours de 1933, après l'avènement d'Hitler au pouvoir, comme étant la faculté définissant les nouvelles règles normatives du droit allemand. Les professeurs furent immédiatement remplacés par de jeunes idéologues du parti nazi qui s'empressèrent de modifier, d'adapter les textes de loi allemands. La faculté fut aussi agrandie et bénéficia de moyens substantiels. La Kunsthalle de Kiel, bénéficiant d'un statut particulier dans le paysage culturel allemand à cause de son incorporation à l'université de Kiel, tout en n'étant pas un musée d'université, profita donc directement des importants fonds alloués à l'université. Mon projet de recherche de provenance porte exclusivement sur la collection d'art graphique de la Kunsthalle, les peintures ayant déjà en partie été analysées par mon prédécesseur. Les œuvres d'art graphique sur lesquelles je me penche sont au nombre de 600, ce qui fait beaucoup pour un projet censé durer 2 ans. Pour arriver à mes fins, il faudrait que j'élucide la provenance d'environ une œuvre par jour, week-end et vacances comprises. Je vous laisse juger. La difficulté d'établir la provenance des œuvres d'art graphique diffère un peu de celle des peintures, non pas dans le fond, mais dans la forme. Bien souvent, les indices retrouvés sur les œuvres elles-mêmes sont inexistants ou alors effacés, qu'il s'agisse d'autocollants arrachés ou de mots au crayon à papier effacés, que l'on peut évidemment beaucoup plus facilement effacer que ceux écrits au stylo ou sur une toile. Sans parler de la multiplicité des gravures et autres, je ne parle pas des dessins, bien évidemment, qui rendent la recherche d'autant plus compliquée. Le fait que les œuvres d'art graphique soient, de manière générale, considérées comme moins précieuses que les peintures et que donc les archives en soient moins soignées, voire pas du tout faites, complique énormément la tâche. De ce point de vue, je travaille aussi. Qu'est-ce que vous aviez dit tout à l'heure ? Dans un angle mort, voilà. Kiel étant la ville de la base navale allemande, et l'est toujours aujourd'hui, elle fut la toute première ville allemande à être bombardée en 1944. La ville fut largement détruite, même si le musée, alors qu'il est situé au bord de l'eau, a, malgré quelques dommages, survécu la guerre, ce qui n'est malheureusement que partiellement le cas pour les archives du musée. Une grande partie des archives ont disparu et ne peuvent donc plus me servir de piste. Je travaille actuellement sur 2 gravures de petit format de Johann Domenico Squaglio, ou plus couramment appelé Domenico Quaglio, qui est né en 1787 et décédé en 1837 pour la petite anecdote à Füssen, que vous voyez affiché. Ces gravures montrent, pour celle de gauche, le cloître d'un monastère, et celle de droite, un paysage. Mais c'est surtout le revers, avec le gros tampon à l'encre bleue, qui m'intéresse. Malheureusement, une partie n'y a pas été bien imprimée, mais je suppose qu'il y est écrit quelque chose comme « Bergdirektor », donc « directeur de mine ». Cette œuvre a été acquise en 1937. Les premières recherches mènent dans la région de Stuttgart, mais pour l'instant sans plus de succès. Je n'arrive pas à obtenir plus d'informations à propos de ce tampon, mais serais ravie si quelqu'un d'entre vous, à tout hasard, en savait plus, car c'est aussi comme cela que fonctionne la recherche de provenance. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.